La recherche de la vérité ne faisait pas partie des préoccupations primordiales des anciens. Par exemple, les chroniques des rois oubliaient de consigner les épisodes de leur règne qui leur étaient défavorables, comme les défaites militaires. Quant aux historiens, ils devaient avant tout plaire à ceux qui les payaient, ce qui fait que leur façon de rapporter les événements était colorée en rose ou en noir, selon ce qui plaisait à leur employeur. Quand un épisode historique n'est relaté que par un seul auteur, on peut se demander s'il est digne de foi. Par exemple, le chapitre 11 de Daniel rapporte une quatrième guerre entre l'Égypte et la Syrie. Le problème est que Porphyre, un philosophe grec syrien du 3e siècle de notre ère, est seul à mentionner cet événement, et pour compliquer un peu plus le tableau, nous tenons cette information de Jérôme, un père de l'Église. Il rapporte que dans la 11e et dernière année de son règne, Antiochus IV Épiphane entreprit une nouvelle campagne contre ses neveux Ptolémée VI et VII, roi d'Égypte, avec des chariots, des cavaliers et une flotte considérable, dévastant tout sur son passage. Le problème est qu'à cette époque, l'Égypte était sous le contrôle des Romains et il est très difficile de croire qu'ils auraient laissé faire sans intervenir. Ceci prouve bien que le passage en question est une prophétie qui annonce ce qui se passera à la fin des temps. Je continue à lire dans le chapitre 11 de Daniel. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Verset 40. Le roi du Midi est une alliance de peuples au sud d'Israël. Le roi du Septentrion est une confédération de nations au nord d'Israël. Les pronoms « lui » et « il » désigne l'Antéchrist, le nouveau César de la troisième phase de l'Empire romain. Vers la fin de la première moitié de la 70e septaine de la prophétie de Daniel, c'est-à-dire la fin des trois premières années de la tribulation, des nations au nord et au sud d'Israël vont attaquer l'Antéchrist simultanément mais de façon indirecte, en lançant une offensive coordonnée contre Israël avec qui ce fureur des derniers temps aura établi une alliance garantissant sa sécurité. Cet accord sera en béton au point où, d'une part, la nation juive sera désarmée et d'autre part, l'Antéchrist envisagera Israël comme une extension au Moyen-Orient de son empire. Considérant toute menace contre Israël comme un acte d'agression contre lui, il réagira rapidement et violemment et envahira le Moyen-Orient par le nord. Je continue. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Verset 41. Ayant vaincu la Confédération du Nord, l'Antéchrist continuera vers le sud, traversera le plus beau des pays, c'est-à-dire Israël, mais évitera la Jordanie. Je continue. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Versets 42 et 43. L'Antéchrist aura la victoire sur la Confédération du Sud qui comprendra aussi les nations arabes du Sinaï et du Golfe Persique et s'emparera de toutes leurs richesses. Je continue. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Verset 44. Alors que l'Antéchrist dirige des opérations en Égypte, il reçoit des nouvelles alarmantes. Il s'agit de forces militaires qui arrivent à la fois du Grand Nord et de l'Est avec l'intention d'en découdre avec lui. La Russie et ses alliés, dont l'Iran, feront partie de ses armées. Ce qui se passera alors n'est pas dans la vision de Daniel, mais nous est révélé par le prophète Ézéchiel. Avant que l'Antéchrist n'engage le combat avec la Russie et ses alliés du Nord et de l'Est, ils seront soudainement détruits par Dieu qui utilisera probablement un cataclysme naturel. Il est probable que l'Antéchrist revendiquera alors la destruction surnaturelle des armées du Nord. Je finis le chapitre 11 de Daniel. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Verset 45. N'ayant plus d'adversaires, l'Antéchrist aura les coudées franches et décidera de rester au Moyen-Orient. Il établira alors sa capitale à Jérusalem sur le mont Sion appelé la Glorieuse et Sainte Montagne et qui est située entre la mer Méditerranée et la mer Morte. Comme je l'ai déjà dit, au milieu de la tribulation qui est la 70e septaine de la prophétie de Daniel, l'Antéchrist rompra son alliance avec Israël et commettra l'abominable profanation en se proclamant Dieu et en installant son effigie dans le temple reconstruit de Jérusalem. Précédemment, et en parlant de ce dictateur, l'ange Gabriel a dit à Daniel « Le roi agira à sa guise, il s'enorgueillira et se croira plus grand que tous les dieux, même plus grand que le Dieu des dieux. Il proférera des blasphèmes inouïs contre lui. Il n'aura de considération ni pour les dieux de ses ancêtres, ni pour aucun autre dieu, car il se placera au-dessus de tous. » En parlant de lui, l'apôtre Paul écrit qu'il est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. L'Antéchrist aura un comportement exactement à l'opposé de celui du Christ quand il était sur terre. Alors que ce dernier César n'en fera qu'à sa tête, l'apôtre Jean rapporte les paroles de Jésus qui a dit aux Juifs « Pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me l'indique, et mon verdict est juste, car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Alors que l'Antéchrist s'exaltera au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, l'apôtre Paul écrit de Jésus « Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne cherchera pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. » Il s'abaissa lui-même, en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. L'Antéchrist, qui sera le représentant de Satan sur terre, insultera le Dieu unique et véritable, ce qui n'est pas surprenant parce que le blasphème est l'expression logique de l'humanisme parvenu à son apogée. Ce despote établira sa juridiction sur le monde entier qu'il gouvernera d'une poigne de fer aussi bien dans le domaine politique que religieux. Dans le livre de l'Apocalypse, l'Antéchrist est appelé la première bête, tandis que la seconde bête, son bras droit, est le faux prophète. Et il détient un pouvoir extraordinaire. Je résume un passage. Cette nouvelle bête accomplissait des signes miraculeux, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde, par les signes miraculeux qu'il lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête, et l'image se mit à parler, et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front, et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. Fin de citation. Seuls pourront prospérer ceux qui auront prouvé leur allégeance à l'Antéchrist en portant son nom, son effigie ou un chiffre numérique qui lui correspond. Il faudra montrer patte blanche afin de participer à n'importe quelle transaction économique ou administrative pour acheter ne serait-ce qu'un bout de pain, pour vendre, retirer de l'argent, louer une voiture, obtenir un document officiel. Ceux qui refuseront de se soumettre à l'autorité de la bête seront pourchassés à mort comme du vulgaire gibier, et même en se terrant nuit et jour, il leur sera quasi impossible de passer à travers les mailles du filet de l'Antéchrist. Mais, dit aussi le texte de la prophétie, il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Au temps arrêté par Dieu, la bête sera jugée et jetée dans l'étang de feu. Nous arrivons au chapitre 12 où se termine cette longue prophétie. C'est parce que Daniel se faisait du souci pour l'avenir de son peuple qu'il avait prié Dieu de lui révéler l'avenir. Seulement la vision qu'il a reçue est particulièrement menaçante pour Israël. Il y a donc tout lieu de croire que Daniel est consterné et même dans une grande détresse. Je commence à lire le chapitre 12. « En ce temps-là, se lèvera Michel, le grand chef qui a pour mission d'aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que des nations existent jusqu'à ce moment-là. En ce temps-là, seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre. » Verset 1. L'archange Michel est le défenseur et le champion d'Israël. Il se dressera comme un guerrier pour prendre en main la cause du peuple de Dieu dont il a la charge. Israël connaîtra une détresse sans pareil qui correspond à la deuxième moitié de la grande tribulation. Ce sera une époque où la chasse aux Juifs sera ouverte 24 heures sur 24 et tous les jours de l'année. Alors qu'Israël en tant que nation semble voué à l'extinction, le retour triomphant du Messie qui détruira l'Antéchrist et tous ceux qui le suivent mettra une fin abrupte aux persécutions. Jésus a parlé de ce temps de grand péril quand il a dit « À ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Et jamais plus on ne verra pareille souffrance. » Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera ce temps de calamité. La prophétie concerne la nation d'Israël, mais aussi les individus, puisqu'elle précise « En ce temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre ». Précédemment, Gabriel a parlé du livre de vérité, mais ici il s'agit du livre de vie, dans lequel sont consignés tous ceux qui doivent hériter le royaume de Dieu. Ésaïe y fait référence quand il écrit « Alors ceux qui subsisteront, ceux qui resteront à Sion seront appelés saints, tous ceux qui, à Jérusalem, seront inscrits afin d'avoir la vie ». Quand les disciples de Jésus sont revenus de mission tout heureux parce que les démons leur obéissaient, Jésus leur a rappelé de garder leurs priorités dans l'ordre en disant « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Plusieurs textes font référence au livre de vie, mais c'est une information annexe plutôt qu'un enseignement sur ce sujet. Par exemple, il est dit que ceux qui se soumettront à l'Antéchrist ne sont pas dans le livre de vie. Je lis deux passages. « Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Les habitants de la terre dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde s'émerveilleront en voyant la bête, car elle était, elle n'est plus et elle viendra. » Fin de citation. Quand l'apôtre Jean écrit que le livre de vie a été écrit avant la création, il traite cette information comme si c'était une évidence banale, alors que pour nous, il fait là une déclaration tonitruante. Si ce livre a été composé par le Dieu souverain dans l'éternité passée, on comprend que pour le jugement dernier, il servira à déterminer le destin éternel de chaque être humain. Je lis ce passage en le compressant. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Le royaume des cieux se composera de la nouvelle Jérusalem et il est dit que rien d'impur ne pourra y pénétrer, seuls y auront accès, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Je continue maintenant le texte de Daniel. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Verset 2. L'expression « ceux qui dorment dans la poussière de la terre » est une allusion à la malédiction dont Dieu a frappé la race humaine quand il a dit à Adam « Puisque tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » La résurrection des morts, tout au moins de ceux qui obtiennent la vie éternelle, atteste que la malédiction de Dieu sur la terre, la nature, l'univers et sur l'homme est désormais levée. La promesse de la résurrection des justes est faite de manière plus ou moins explicite au travers des pages de l'Ancien Testament. Je lis de passage. « Mais tes morts revivront, les cadavres de ceux qui m'appartiennent reviendront à la vie. » Oui, vous qui demeurez dans la poussière, réveillez-vous, poussez des cris de joie, car ta rosée est une rosée de lumière, et la terre rendra les trépassés. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, en personne, je contemplerai Dieu. Ce passage mentionne également ceux qui se réveilleront pour la honte et l'horreur éternelle. Le concept d'une condamnation éternelle est rare dans l'Ancien Testament, mais il existe. Par exemple, le livre du prophète Ésaïe se termine par des paroles particulièrement sinistres. Je les lis. « Le ver qui rongera ces hommes ne mourra pas. Le feu qui les dévorera ne s'éteindra jamais, et ils feront horreur à tout être vivant. » Ce passage de Daniel est le seul qui mentionne spécifiquement une résurrection des Juifs infidèles pour une condamnation éternel. Le Nouveau Testament, par contre, nous avertit souvent que deux destinées opposées attendent tous les hommes. Par exemple, dans l'Évangile, Jésus dit « Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et tous ceux qui l'auront entendu vivront. Alors ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. » Le jugement éternel n'est pas un sujet de conversation agréable. Pourtant, il faut en parler car on ne doit pas ignorer que, comme la félicité éternelle des justes, la condamnation à tout jamais est une réalité tragique enseignée tout au long des Écritures. Jusqu'à présent, la longue prophétie que l'ange Gabriel a exposée à Daniel a surtout consisté en une suite de malheurs qui vont frapper son peuple. Après ces révélations terribles, l'ange lui annonce quand même des bonnes nouvelles. Il lui a d'abord dit qu'Israël serait délivré des griffes de l'Antéchrist par la venue soudaine du Messie. Maintenant, il donne une réponse concernant le sort des martyrs, les hommes et les femmes fidèles à l'Éternel qui sont morts prématurément sous le feu des persécutions. Ces Juifs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront pour la vie éternelle. Cette résurrection aura lieu à la fin de la tribulation, au moment du retour glorieux du Messie. Je lis un autre passage. « Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. » Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection, les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. » Fin de citation. Ceux qui prennent part à cette première résurrection sont tous les croyants de l'Ancienne Alliance, qu'ils soient israélites ou non-juifs, ainsi que les martyrs morts pendant les persécutions de l'Antéchrist à cause de leur fidélité à l'Éternel. Par contre, cette résurrection ne concerne pas l'Église du Christ qui a déjà été enlevée dans les cieux avec tous ceux qui avaient eu foi en Jésus, les morts inclus. L'apôtre Paul écrit « Puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. En d'autres mots, lorsque l'Église a été enlevée dans les cieux, une résurrection a déjà eu lieu. Mais elle n'est pas prise en compte ici parce qu'elle ne concerne pas le programme de Dieu avec le peuple de Daniel, or c'est de lui qu'il est question dans cette prophétie. La résurrection des justes, mentionnée ici, concerne les Juifs et les païens prosélytes qui ont cru en l'Éternel sous le régime de l'Ancien Testament, ainsi que les croyants assassinés par l'Antéchrist. Ils ressuscitent à la fin de la tribulation afin d'entrer dans le millénium. À la fin des 1000 ans de règne du Messie sur terre, aura lieu la résurrection de tous ceux qui sont condamnés, qu'ils soient juifs ou païens. Alors se tiendra le jugement du grand trône blanc, autrement dit le jugement dernier. Assurez-vous de ne pas vous trouver alors au banc des accusés.